Voilà, bonjour à chacun. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Non, ça a été mentionné avant, c'est clair qu'il y a la fête des mères. Ça, c'est vrai. Donc, je souligne que oui, c'est un jour particulier pour ces dames. Et c'est vrai, et il est bon de ne pas les oublier. Franchement, il est bon de le souligner. Mais il y a aussi un autre jour particulier, et puis si tu as ton anniversaire, tu vas dire « Ouais, c'est mon anniversaire. Il y a quelqu'un ?» Non. Quoi ? Il y a quelqu'un qui a dit vendredi ? Pas aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour particulier qui est fêté dans le monde entier. Un jour durant lequel l'histoire se marque et la Bible se prouve. Un jour de joie, mais aussi un jour de larmes, et un jour de deuil, et ça dépend comment les choses sont vécues ou sont prises. Un jour qui me fait me lever, et un jour qui me fait citer et proclamer Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai aucun repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Et le titre de mon partage, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas ». Alors, je ne vais pas dire que c'est un message, c'est plus un partage de mon cœur, des choses que je vis, et des choses que j'aimerais pouvoir partager pour nous faire réfléchir sur où nous en sommes face à Dieu. Aujourd'hui, il y a 51 ans, la ville de Jérusalem retrouvait son unité. Et non seulement son unité, mais son plein accès pour les Juifs qui pouvaient enfin y retourner librement. Accès qui leur a été refusé pendant 20 ans, dans la vieille ville de Jérusalem et sur le mont du Temple. Je fais un petit peu d'histoire. Selon notre calendrier grégorien, il s'agit du 6 juin 1967, où il y a une date particulière. Selon le calendrier hébraïque, c'est le 28 Iyar qui tombe aujourd'hui. Pour bien comprendre, je dois également préciser que demain, le 14 mai, selon notre calendrier, l'État d'Israël fête ses 70 ans. Je vais faire un petit rappel que j'ai pris sur Wikipédia pour faire un résumé ultra raccourci. Le plan de partage qui était prévu pour 1947, dont les Britanniques avaient le mandat depuis 1917, suite à la Première Guerre mondiale, développé dans les accords de San Remo en Italie en 1920, prévoit deux États indépendants, l'un juif et l'autre arabe, et une zone internationale, avec Jérusalem et ses environs devant être placés sous contrôle de l'ONU. Ce plan est rejeté par les Arabes palestiniens et tous les pays arabes qui attaquent, non pas le 14 mais le 15 mai, l'État d'Israël, soit le lendemain de sa naissance et de sa proclamation, conduisant à la première guerre israélo-arabe de 1948. En 1949, il y a eu un armistice qui a été proclamé, des accords de paix ont été signés, comprenant un partage de la ville de Jérusalem suivant la ligne de front entre une partie orientale, désormais appelée Jérusalem-Est, sous contrôle jordanien, et une partie occidentale sous contrôle israélien, qui s'appelle simplement Jérusalem. Et la partie Jérusalem-Est comprend la vieille ville, les lieux de culte juifs et hébraïques, le fameux mont du Temple, et le mur. Et c'était là qu'était principalement la communauté juive à cette période. La présence juive y est interdite, y compris sur le lieu saint. Les profanations, destruction des cimetières juifs, les pierres ont été utilisées pour construire des maisons, des pavés et les routes qui sont autour de Jérusalem, ainsi que la destruction à la dynamite de 34 synagogues sur les 35 de la vieille ville de Jérusalem y ont été pratiquées. Et ça, c'était pourtant les accords d'armistice qui ont été signés par la Jordanie. L'accord d'armistice indiquait ceci, signé le 3 avril 1949, la reprise du fonctionnement normal des institutions culturelles et humanitaires sur le mont Scopus, qui est là où il y a la Knesset à l'heure actuelle, et le libre accès à celui-ci, pour tout le monde, le libre accès aux lieux saints, aux institutions culturelles et l'utilisation du cimetière sur le mont des Oliviers. Donc c'est ce qui a été signé en 1949, Et c'est ce que la Jordanie n'a jamais permis qu'il arrive pendant 20 ans jusqu'en 1967. Les changements ont eu lieu lors de la guerre des six jours de 1967. Et aujourd'hui, en fait, la réunification de Jérusalem, parce qu'il y a eu la victoire d'Israël pendant cette guerre, et qu'ils ont pu récupérer Jérusalem dans son entier, ils ont permis enfin que tout le monde puisse de nouveau y circuler librement. Et j'ai bien dit, tout le monde. La Jordanie s'est retirée, après 20 ans d'occupation, d'annexation des plans accordés, comme ce qui était prévu en 1947 pour l'État juif. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle vulgairement la Cisjordanie, qui est en fait la Judée-Samarie, qui leur était accordée. L'accès à tout le monde, la ville unifiée, et c'est ce qui se fête aujourd'hui, les 51 ans de la réunification de Jérusalem. Une dernière chose encore, un des présidents d'Israël a eu la très mauvaise idée de laisser la Jordanie recontrôler le passage au mont du Temple, et depuis 1967, c'est la police, le Waqf, qui est une police jordanienne et musulmane officielle qui garde cet accès, et on ne peut plus monter sur le mont du Temple librement, même nous. On peut y aller, mais ça doit être au travers d'accords, d'arrangements, de voyages, d'organisations. L'accès n'est plus libre, et pour le juif, il ne l'est plus du tout, sauf à deux ou trois dates précises dans l'année. Alors voilà, ce week-end, c'est particulier parce que c'est la double fête dans deux dates qui se suivent, les 70 ans de l'État d'Israël et les 51 ans de la réunification de Jérusalem. Pour comprendre pourquoi je parle de ces choses, j'aimerais qu'on lise le psaume 137. Auprès des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis et nous avons pleuré quand nous nous sommes souvenus de Sion. Au saule qui était au milieu d'elle, nous avons suspendu nos harpes. Car là, ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient des cantiques, et ceux qui nous faisaient gémir nous demandaient de la joie. Chantez-nous un cantique de Sion. Verset 4. Comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur un sol étranger? Verset 5. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je n'élève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. Verset 7. Éternel, souviens-toi des fils d'Édom. Édom, sur la carte, c'est le bas de la Jordanie et une partie de l'Arabie Saoudite. En tout petit, petite partie, mais ça permet de situer. Souviens-toi des fils d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, que l'on fête aujourd'hui, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements ». Fille de Babylone qui va être détruite, bienheureux qui te rendra la pareille de ce que tu nous as fait. Je n'irai pas la suite. Pendant les 2000 ans depuis la pendant les 2000 ans, les Juifs ont été dispersés, ce qu'on appelle la diaspora, dans le monde entier. Avant, ils n'étaient pas dans le monde entier. Avant, ils étaient sur tout ce qui était de l'Empire Mède, Perse, une partie de l'Asie, sur l'Égypte, sur une partie du nord de l'Afrique. C'est là qu'il y avait déjà des premières dispersions. Et puis quand, après Salomon, le royaume s'est séparé entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, alors Juda est resté sur place et le royaume d'Israël a été, au bout d'un certain temps, quand on lit les chroniques, on réalise, et les rois, on réalise que Israël a disparu, complètement disparu. Et ils sont partis à Babylone, donc c'est tout l'Irak, c'est une partie de l'Iran, c'est la Turquie et c'est la Syrie. On a les régions principales dans lesquelles il y a eu les premières diasporas. Après, il y a eu ce qui est resté, l'Empire romain qui est venu. Et dans l'Empire romain, dans l'année 135, dans les années 130, 135 et compagnie, il y a eu Rome qui en a eu marre et qui a dit « Ceux-là, ils sont rebelles, ils veulent pas nous obéir, ils se soumettent pas à nous, donc on va simplement les rayer de la carte ». Et il y a eu des conflits, beaucoup de conflits. Et puis, quand ils ont pris le pouvoir, Adrien a dit « Toute cette région, ce n'est plus Israël, ce n'est plus la Judée-Samarie. Cette nouvelle région s'appellera du nom de leurs ennemis pour que même leur nom efface leur identité. » Et il a repris le nom Philistin, bien que les Philistins n'existaient déjà plus depuis à peu près 200 ans, depuis la période des Maccabées. Donc, enfin... Quand Adrien l'a fait, l'empereur romain, quand il a décidé ça, C'était déjà 100 ans après Jésus, 135 ans après Jésus, et puis les Philistins avaient déjà disparu 200 ans avant. Ils s'étaient assimilés à la Syrie, l'Assyrie, et la région à cette époque. En même temps, il a appelé cette région Palestine du nom des ennemis d'Israël, et il a voulu changer le nom de Jérusalem, je ne me rappelle plus comment, Aloé Capitolina, quelque chose comme ça. Et puis, la ville de Jérusalem n'a jamais changé de nom. Depuis cette diaspora d'il y a quasi 2000 ans, les Juifs du monde entier prient l'an prochain à Jérusalem. C'est une prière constante et régulière. C'est des chants, c'est des poèmes, c'est des écrits. C'est des cris et des larmes, des textes et des prières sur Jérusalem. Et le psaume 137, dont nous venons de lire certains passages, est toujours mentionné. Dans la Bible, Jérusalem est cité 660 fois dans l'Ancien Testament, 146 fois dans le Nouveau Testament. Et on ne parle que de Jérusalem, on ne parle pas de Sion, qui est également dans l'Ancien Testament la représentation de Jérusalem. Alors Jérusalem est pour les Juifs bien plus importante que Israël même, parce que pour le Juif, Jérusalem, c'est là où Dieu règne. L'Éternel a dit que Jérusalem était sa vie, dans Jérémie 3, que Jérusalem est son trône. Il dit dans Esdras, Zacharie, Esaïe qu'il règne à Jérusalem et que c'est sa ville. Il indique qu'il y ramènera son peuple. Zacharie 8, 6 et 7. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si cela paraît étonnant aux yeux du reste de ce peuple durant ces jours-là, ce sera aussi étonnant à mes yeux. Non, loin de là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je sauve mon peuple du pays levant et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. Comme je vous l'ai déjà dit une fois, en ce temps-là qu'on trouve dans la Bible, ça a toujours une connotation au-delà du texte biblique, non pas dans le sens... pas dans un sens méditation, mais dans un sens de temps. Et très souvent, quand on a dans ces temps-là, ça parle de après les paroles qui sont données pour le maintenant. Reviens. Il veut plus s'ouvrir. Et donc, ça veut dire que Dieu parle d'après les déportations dont ils sont au courant. D'après les déportations, quand ils sont même déjà revenus sur leur terre. Ça montre déjà que, d'une partie, comme je vous ai dit avant, là où ils avaient la première dispersion, elle n'était pas dans le monde entier, du soleil levant au soleil couchant. Pour eux, c'était une première compréhension claire. Du nord au sud était plus l'interprétation légitime de leur diaspora qu'ils vivaient, et de leur retour. Et là, on voit que cela va au-delà. Donc, il dit qu'il y ramènera son peuple, et ça me fait comprendre que les temps arrivent durant lesquels le Seigneur va revenir. Tu l'as dit, Marcus, tout à l'heure, dans ta prière d'introduction. N'oublions pas le retour du Seigneur. Parce que on voit là des signes d'accomplissement de la parole de Dieu, des signes qui sont plus forts. Du soleil couchant au soleil levant, ça n'est jamais arrivé pendant les 2000 et les 3000 ans de la diaspora juive. Donc, si ces choses arrivent, réfléchissons-nous, mais où en sommes-nous? Si le Seigneur revient, mais alors, j'en ai les frissons sur les bras. Et cela veut dire que nous devons nous préparer. En Ésaïe 40, le Seigneur appelle les nations à consoler son peuple. On voit que plus que leur retour de Babylone ou de Perse, Dieu parle de leur retour futur, dont nous sommes les témoins. Dieu indique que sa gloire sera révélée et que toute chair le verra. Apocalypse 1:7 le confirme. Luc 21 parle de cette gloire incroyable qui se verra. C'est les termes qui sont utilisés, c'est les mêmes termes dans les passages que je vous ai cités. Ésaïe 40, verset 1. Consolez, consolez, mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est terminée. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour Dieu. que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Et quand on lit ce texte, on peut dire la voix qui crie dans le désert, c'était Jean-Baptiste. Il y en arrête, c'était il y a 2000 ans. Et le Seigneur qui revient, c'est Jésus. Amen. Et c'est vrai. Et nous le confirmons tous. Mais c'est quand il le dit que quand ces choses arrivera, toute chair le verra. Ce n'est pas encore le cas. Et nous, nous avons un aperçu des choses au travers du plan magnifique de Jésus, un aperçu de ces choses. Et un temps de grâce qui nous permet d'avoir l'espoir et de pouvoir découvrir l'amour, la fidélité, la patience et la bonté de notre Dieu. En ce jour d'anniversaire, on voit que cette servitude n'est pas terminée. Si on prend le texte clair, Jérusalem, il y a toujours le waqf sur le mont du Temple. Et puis les nations se battent. Et on voit que Jérusalem est toujours écrasée sous les pieds des nations. Et un autre verset que je n'ai pas retrouvé le cite. Donc, ce n'est pas terminé. Et quand on lit certains textes, on réalise aussi que Jérusalem va encore ramasser. Et si on lit ces textes, on réalise qu'il n'y a pas que Jérusalem qui va encore ramasser, mais que le monde entier va ramasser. Seulement, ce que l'on voit là-bas sous nos yeux, on doit nous y préparer. Ces choses se mettent en place. Ce passage d'Ésaïe 40 est fort. Un temps de jugement passé, mais non terminé. Ce n'est que un jugement et non pas le jugement. Nous sommes donc appelés à consoler le peuple de Dieu. Et j'utilise bien le peuple de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Et je fais une différence très claire avec ça. Nous sommes son peuple bien-aimé, mais au-delà, nous sommes son propre corps, à Jésus lui-même, dont il est la tête, et nous sommes ses enfants. Quel privilège! Nous sommes censés les rendre jaloux, ce peuple, car nous comprenons ces choses. Et Dieu marche avec nous. Leur Dieu, il marche avec nous. Est-ce que nos vies en témoignent? Nous sommes censés leur montrer que ce qu'ils attendent arrive. Comme l'apôtre Paul l'annonce, nous sommes censés les rendre jaloux que Dieu marche avec nous dans l'Épître aux Romains. Alors voyons combien Dieu les accompagne. Si eux voient combien Dieu nous accompagne, ça va leur poser des questions. J'ai entendu des témoignages d'Allemands qui sont partis en Israël, qui ont été vivre sur place, des chrétiens. Et puis ils y ont été en tant qu'Allemands chrétiens. Et c'était pour eux un poids énorme, parce que se retrouver là où certaines familles ont perdu quelqu'un au nom de l'Allemagne, du nazisme et de la foi chrétienne, à travers 2000 ans d'histoire, était très difficile. Seulement, ils vivaient un témoignage et un amour fort autour d'eux. Ils ont eu des persécutions, et malgré tout, ils avaient un témoignage très fort, où les gens couraient dans les synagogues pour demander à leur rabbin « Comment ça se fait que Dieu y bénisse ce qu'ils font ?» Et ils ont été bénis, et des âmes ont été sauvées, et certains juifs ont enfin retrouvé leur Messie. Le témoignage qui les rend jaloux, comme le dit l'apôtre Paul. L'aveuglement, nous le savons, un jour va cesser. Romains 11 l'explique, ils sont aveuglés, je vous rappelle, je vous l'avais déjà dit, ils sont aveuglés pour que nous, qui ne faisons pas partie de l'Alliance, puissions y entrer et en profiter. Ils sont aveuglés pour notre salut. Et pendant 2000 ans d'histoire, le nombre de conversions, et la conversion est encore faux par rapport aux Juifs, mais la reconnaissance de qui est leur Messie, l'acceptation des plans divins et de ce que leur Écriture enseigne, il n'y en a quasiment pas eu. Là où ça a commencé, c'est l'explosion de la toute première Église. C'est une très bonne question. Quand on lit certains textes qu'on trouve dans Ésaïe, dans Ézéchiel, je vais faire très court puisque je donne la suite, mais c'est vrai, on réalise qu'il viendra quand eux le reconnaîtront et qu'ils béniront celui, c'est un texte que je vais lire après, quand leurs yeux s'ouvriront et qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé et qu'ils diront « Bienvenue soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et là, c'est écrit, le texte dit que c'est là qu'il revient. Ça veut donc dire que quand la première église, elle prêchait, puis qu'il y avait un tel réveil, que si tout le peuple à ce moment-là le réalisait, et qu'il pouvait dire, ils entraient dans la prophétie. Et le plan s'arrêtait pour les nations. Seulement Dieu ne sépare jamais l'un de l'autre. Une fois, je vous l'avais rappelé, Dieu a dit à Abraham, voilà, vous aurez votre terre, mais vous serez 400 ans esclaves. 400 ans de souffrance. Pourquoi ? Parce que eux, la nation qui est sur Canaan, n'est pas au bout de leur iniquité et de leur abomination. Donc Dieu a même laissé grâce au travers du témoignage d'Abraham et de ses enfants dans un premier cas, le témoignage de la relation à Dieu aux Cananéens, aux Amoréens et à ceux qui habitaient là. Ils n'ont pas changé. Dieu a permis que son peuple se fasse, mais il a mis son peuple à l'écart pour le salut de cette nation. Et malgré qu'il n'y a pas eu changement, ensuite il y a eu jugement. Et avec la croix, c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a réconcilié son peuple, son héritage premier, avec les nations. Dans le cadre où là, il a ouvert son plan de salut pour son peuple en premier. Et puis ensuite, dans l'évangile de Jean, il dit « Une autre bergerie m'attend, il faut que je les amène ». Et donc là, on voit que dans le cœur de Dieu, il ne pouvait pas laisser. Et comme ce qu'il a dit s'accomplit, il fallait que eux soient aveuglés pour que nous, les nations, puissions bénéficier de son amour et de son plan de salut. Et ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Ça répond à ta question ? S'ils étaient tous convertis, Jésus aurait dû revenir. La parole de Dieu le disait clair. Ils n'ont pas pu l'être pour que nous, on en profite. Et c'est pour ça qu'ils ont été aveuglés. Paul le dit, il insiste là-dessus, mais que sera leur retour quand leurs yeux s'ouvriront, sinon une renaissance de la mort à la vie. Donc il y aura ce temps jusqu'à ce que tout Israël soit sauvé. Et là, c'est un plan à ce moment-là où Jésus reviendra. Donc, nous devons comprendre en partie ces choses pour nous dire, mais quelle grâce nous avons. Mais quelle grâce complètement folle nous avons reçue. Donc on est censé les rendre jaloux. Et l'apôtre Paul qui lui-même dit « Plus juif que moi, il n'y a pas », je paraphrase, il dit « Pourtant Dieu ne m'a pas appelé auprès de mon peuple, il m'a appelé auprès des nations et des païens. Pourtant, je prêche l'évangile aux juifs, premièrement, pour en sauver ne serait-ce que quelques-uns. » Puis pendant les 2000 ans, ben, il y a eu cette séparation où tout ce qui était du judaïsme et des juifs a été mis de côté, et la persécution, et elle est née en partie dans l'Église. Et il y a eu difficile, il y a eu des conversions, des vraies, et il y en a toujours eu, heureusement, mais tellement faibles. Et puis, depuis les années 1800, depuis qu'il y a leur retour sur leur terre, il y a un réveil dans le peuple juif, où maintenant on arrive à la deuxième, voire la troisième génération, enfin, d'enfants qui reconnaissent Jésus comme leur Messie dans le cadre juif, ce qui n'est jamais arrivé. Et puis, donc, ils sont à l'école et eux, ils prêchent l'Évangile. Ce qui n'est jamais arrivé. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire aussi. Pouvons-nous être ceux qui les rendent jaloux parce que Dieu marche avec nous, parce que Dieu est vivant? Dans cette consolation, nous sommes également à prier pour la paix de Jérusalem. Et cette paix ne se trouve certes que dans le salut. Et le seul qui pourra amener la paix pleinement, c'est Jésus lui-même. Il n'existe pas d'autre possibilité que en Jésus. Le passage suivant relie ce que je viens de partager au sujet de ce voile dont ils ont, que Romains 11 parle, de la consolation du regard de Dieu sur Jérusalem et la bénédiction qui en découle, c'est le psaume 122. Je me suis réjoui quand ils m'ont dit « Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se tiendront dans tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem qui est bâtie comme une ville bien unie, ensemble, en elle-même. » C'est là que montent les tribus de Yahvé. Un témoignage à Israël pour célébrer le nom de l'Éternel. Car là sont placés les trônes de jugement et les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem et ceux qui t'aiment prospéreront. Ce psaume indique le cœur des Juifs. Un amour pour la cité de David, ça ne les a jamais quittés, à part ceux qui croient en rien du tout. Un cœur pour la maison de l'Éternel. Jésus l'a dit à la Samaritaine, qu'on louera en esprit en vérité, alléluia et merci pour la louange de ce matin. Et merci parce qu'il n'est pas de lieu d'adoration, l'Éternel est présent. Mais Jésus lui disait, oui c'est vrai que ce qui est juste se passe à Jérusalem, viendra le temps où on adorera en esprit en vérité. Mais pour eux, ce lieu de Jérusalem est le lieu de louange et de prière pour l'Éternel. Il y a quelque chose de particulier pour eux, c'est là que Dieu se trouve. Le psaume indique que de demander la paix de Jérusalem est un témoignage d'amour et de là découle la bénédiction. Et ceux qui t'aiment prospéreront. Je parle donc, je ne vais pas faire un enseignement sur prospérité ou pas. Je parle juste d'une question. De prier pour la paix de Jérusalem, il en découle un témoignage d'amour que Dieu a son regard dessus. Je rappelle aussi, pour comprendre une part de ces choses, que Jésus ne reviendra pas à Genève à la place des nations. Jésus ne reviendra pas à New York, il ne reviendra pas à Rome, mais il reviendra à Jérusalem, terrestre. Et en plus, il va y régner. Et c'est pour ça que la paix n'est qu'en lui. Dieu aime Jérusalem et Dieu veille sur sa ville. Dieu prépare son retour et ses signes nous le montrent. Attention, ça se coud. Jésus revient, les Juifs, ils attendent la venue du Messie. Nous, nous attendons son retour. Pour l'instant, ils ne reconnaissent pas qui est leur Messie, malheureusement. Eux, ils l'attendent avec force et ils prient pour sa venue, tous les vendredis. Et ils implorent sa venue, pas son retour, ça c'est nous. Mais nous, est-ce qu'on a la prière du cœur comme ce matin, Marcus l'a faite en disant « Mais Seigneur, reviens, je t'attends, je veux me préparer parce que je vois que tu vas revenir. Est-ce que j'ai envie de t'honorer et d'être prêt pour ton retour ?» Eux réalisent que de par ces événements, les temps sont proches. Et ils s'y préparent. C'est très étrange, mais de plus en plus, ils reviennent à la foi juive. Alors qu'ils étaient athées ou sans religion, et que leur seule religion était la tradition pendant près de 2000 ans, sauf certains. Mais il y a un retour en force d'athées qu'ils étaient, de plus en plus se replongent dans la Bible et la Torah, de plus en plus recommencent les prières, de plus en plus font repentance, pour essayer de changer de vie et de se préparer pour l'avenue de celui qu'ils attendent. Et nous ? Nous, nous savons qui nous attendons. Il y a comme une foi qui renaît, mais ils sont encore aveuglés. Et de plus en plus, ils reviennent à une foi biblique, ils commencent de connaître les textes, et nous les connaissons, nous. On y voit un accomplissement de la vallée des ossements desséchés. Cependant, il reste encore la dernière étape. Relisez Ézéchiel 37 en entier, puis vous verrez que ça va au-delà de juste une interprétation, parce que même l'interprétation est donnée dans le texte. Cependant, il reste cette dernière étape, celle de l'esprit de vie, dans la vallée des ossements desséchés. Un texte pourtant si prophétique, même dans les mots, et si actuel. Alors j'ai envie que de plus en plus on puisse prier pour les Juifs qui sont aveuglés, parce que nous avons le salut, pour que le voile s'ouvre, que leur salut, ils le reconnaissent, et que de plus en plus, ils soient tous sauvés, comme n'importe qui d'autre que nous le voulons. Mais j'ai envie de dire, comme l'apôtre Paul, pour le Juif, premièrement, parce que c'est de eux que nous avons tout reçu. Et si on le fait, notre amour découlera automatiquement pour autour et plus loin. Prions pour qu'ils reconnaissent leur Messie, qu'ils reconnaissent Jésus. Prions et bénissons-les, parce que nous avons tellement reçu. Prions et bénissons-les parce que leur retour et leur foi, le retour sur leur terre, leur amour de Jérusalem, les fêtes et ces choses-là nous témoignent que ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu, entre autres, qui est confirmé dans Marc, c'est des choses qui sont en train de s'accomplir et quand c'est écrit, quand ces jours viendront, ne vous inquiétez pas, levez les yeux car mon retour est proche, on puisse se dire, waouh, Seigneur, on n'en peut plus, heureusement que tu viens. Prépare nos cœurs que, dans ces temps difficiles, nous ne soyons pas déficients et que nous ne baissions pas les bras et que nous ne nous laissions pas décourager. Prions pour qu'enfin leurs yeux s'ouvrent et puis que puissent s'accomplir les versets que je vais lire après, ils reconnaissent celui qu'ils ont percé, comme le dit le texte. Réalisons aussi que depuis le commencement de leur retour sur la terre promise, il y a ce réveil assez particulier. Si on prenait le pourcentage de Juifs qui ont rencontré Jésus et qu'on le mettait sur le pourcentage planétaire, on serait dans un réveil mondial assez exceptionnel. Et cela comme jamais vu pendant les 2000 ans depuis la destruction de Jérusalem. N'oublions pas cependant que chacun de nous a également percé Jésus et que nous sommes des graciers absolus et que quand nos yeux à nous ont été ouverts par sa grâce, nous avons reconnu celui que nous avons percé. Je vais lire un dernier grand passage, Zacharie 12. l'oracle de la parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi dit l'Éternel, qui a étendu les cieux, qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour les peuples d'alentour. Ce qui est complètement le cas à l'heure actuelle. Elle sera aussi contre Juda lors du siège contre Jérusalem. Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui s'en chargeront s'y meurtriront certainement, et toutes les nations de la terre seront rassemblées contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai de terreur les chevaux et de délire ceux qui les montent, et j'ouvrirai mes yeux sur la maison de Juda et je frapperai de cécité tous les chevaux des peuples qui montent contre Jérusalem, comme le dit le verset précédent. Et les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem seront ma force par l'Éternel des armées, leur Dieu. Verset 6. En ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda semblables à un foyer de feu au milieu du bois et à une torche de feu dans une gerbe. Ils dévoreront à droite, à gauche, tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera encore à sa place à Jérusalem. Et l'Éternel sauvera premièrement les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent contre Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et celui qui chancelle parmi eux sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viennent contre Israël, contre Jérusalem. Le verset 10, Dieu dit, « Et je répondrai, sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé. Et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation en Jérusalem, comme la lamentation de Hadad-Rimmon dans la vallée de Megiddon. Et le pays se lamentera, chaque famille à part. À la famille de la maison de David à part, et leurs femmes à part, à la famille de la maison de Nathan à part, et leurs femmes à part, la famille de la maison de Lévi à part, et leurs femmes à part, la famille des Shimhites à part, et leurs femmes à part, toutes les familles qui seront de reste, chaque famille à part, et leurs femmes à part. En ces temps-là, et ça correspond au verset qui dit, en ces temps-là, tout Israël sera sauvé, et ils reconnaîtront le salut qui leur était promis. Et c'est vrai, on le voit, que depuis qu'ils reviennent dans cette région, il y a une forte opposition contre eux, une forte opposition contre Jérusalem même, une forte opposition sur à qui appartient la ville. Les chrétiens et les musulmans ont occupé cette ville, ils s'y sont même battus, il y a eu des guerres, mais il n'y a pas une pression du monde général sur Jérusalem comme aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où ils ont commencé à revenir, que les choses ont commencé à s'alourdir. Et quand on regarde les photos de la région des années 1890, 1900, 1930, on regarde les photos, la ville de Jérusalem est pour une part en très mauvais état. Le mont du Temple est rempli de broussailles et d'herbes partout, il n'y a pas d'entretien. Quand on lit les écrits des personnes dans les années 1880 qui étaient sur place, ils disent « tout n'est que désolation et larmes ». Puis il y a leur retour, puis il y a les hôpitaux qui naissent, il y a les universités qui naissent, il y a des choses qui se mettent en place, mais une opposition très très forte. Et les guerres qui commencent toujours plus fortement. Et que fait Dieu? Dieu veille. Dieu veille, il a dit que ce serait une coupe d'étourdissement, une pierre pesante. Mais il va aider son peuple. Pour qu'il le reconnaisse. Comme nous, il nous a guidés pour que nous le reconnaissions. Et dans ce texte, me montre combien il est important de saisir ces choses, parce que ça affermit notre foi, ça nous prépare au retour de Jésus, parce qu'il revient. Jérusalem va encore ramasser. Et ce que Jérusalem va ramasser, ça va se suivre sur le reste du monde. Conclusion. Oui, j'aime Jérusalem et j'aime Israël, et vous le savez. Mais oui, ce signe de la véracité de la parole de Dieu, nous l'avons sous nos yeux. Ce signe de l'accomplissement des promesses de Dieu même pour son peuple, qu'il a aveuglé pour notre salut. Alors comme Paul, j'ai envie de le dire, je veux prier, oui, pour le juif premièrement et qu'il trouve son salut. Ces jours, on voit une tension toujours plus grande dans la région. On a vu les bombardements qu'il y a eu ce week-end, la semaine passée. On voit qu'il y a une tension très très forte. On voit une opposition et des conflits de plus en plus violents. On voit que dans le reste du monde, la tension de guerre générale devient de plus en plus forte. Félix n'est pas là pour nous parler des millions de morts qu'il y a au Congo à l'heure actuelle. Dans les pays d'Amérique du Sud, les chrétiens sont ultra persécutés de la même manière qu'ils le sont dans le Moyen et Proche-Orient. Il y a une persécution, une violence très forte. Et nous, est-ce que l'on revient à la parole de Dieu? Est-ce que l'on revient à la prière? Ou est-ce que l'on fait comme les Juifs pendant 2000 ans, on s'arrête à notre tradition? Est-ce que l'on revient en nous réjouissant du retour de Jésus et est-ce que s'en prépare afin de pouvoir l'honorer et de préparer la voie à sa venue, à son retour? Est-ce que nous sommes prêts, malgré les circonstances, à tenir ferme, à garder notre foi et à être des témoins malgré la difficulté? Ou pas? Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est sur ça que j'aimerais nous laisser. C'est sur cette conclusion d'où on est, ma foi, quand on voit que les temps s'accélèrent. Alors oui, je le recite, ce Ésaïe que j'ai lu au départ. « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. »